Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Bouris.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Aujourd'hui, dans sa version grand invité de l'économie, RFI Jeune Afrique. Aujourd'hui avec Julien Clémenceau de Jeune Afrique. Bonjour Julien.
Bonjour Jean-Pierre.
Nous recevons le directeur général de l'Agence française de développement, Rémi Rioux. Bonjour Monsieur Rioux.
Bonjour, merci pour votre invitation.
Rémi Rioux, vous entamez votre deuxième mandat à la tête de l'Agence de développement française, l'AFD, une agence qui s'est vue dotée de moyens nouveaux lors de votre premier mandat. 2 milliards d'euros supplémentaires promis, engrangés, nous le verrons. Nous verrons aussi au cours de cette émission à quoi servent ces ressources, en quoi les pays où vous les investissez se mettent un peu mieux sur le chemin escarpé du développement. Nous parlerons beaucoup, bien sûr, de ce qui est le cœur de votre action, le continent africain et en particulier le Sahel. Nous évoquerons aussi le livre que vous venez de publier aux éditions Débat Public, livre qui s'intitule « Réconciliation » avec un S au pluriel. Donc, pour rythmer cette conversation, un reportage avec notre correspondante Théa Olivier, qui a couvert la semaine dernière la réunion de l'IDFC, l'International Finance Development Club, qui se réunissait la semaine dernière à Casablanca, l'IDFC que vous présidez, Rémi Rioux. Nous entendrons aussi un porte-parole de l'ONG Oxfam, ONG qui vient de publier un rapport sur les inégalités au Sahel. Enfin, une précision pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté, je précise que votre organisation, l'AFD, votre agence, Rémi Rioux, contribue au financement d'une émission sur RFI qui s'appelle « Alors on dit quoi ?» et que des discussions sont en cours entre la direction des deux entreprises pour d'autres partenariats. Et nous commençons cet entretien avec quelques questions de Julien Clémenceau de Jeune Afrique sur votre parcours personnel.
Bonjour Rémi Rioux. Vous êtes le fils de Jean-Pierre et d'Hélène Rioux, tous deux historiens, et vous avez débuté vos études par un cursus universitaire d'histoire. Qu'est-ce qui vous a ensuite éloigné de cette matière et entraîné vers la gestion de la chose publique ?
Parfois, on suit le chemin de ses aînés, et puis à un moment, on veut prendre son propre envol. Et donc oui, effectivement, j'ai fait des études d'histoire, j'ai travaillé sur Jules Michelet, sur l'histoire de France, je connais mon pays. L'histoire coloniale aussi, c'était un domaine de spécialité de mon père.
Oui, sur la guerre d'Algérie notamment.
Absolument, donc ça m'avait déjà donné cette coloration, cet intérêt pour le continent africain en particulier. Et puis, dans ma scolarité, je suis allé à Sciences Po, j'ai fait l'ENA, enfin comme
vous
beaucoup d'entre
nous. Grandes écoles.
Oui, j'en ai fait quelques-unes, oui, ouais. J'ai cette faiblesse, puisqu'on en parle beaucoup en ce moment, et tout ça m'a amené effectivement vers un métier de manager public, finalement, et que j'ai exercé à la fois au ministère des Finances, au Trésor, et puis au ministère des Affaires étrangères, dont j'ai été le secrétaire général adjoint au moment de la COP21, en particulier sur les questions climatiques, et tout ça, je crois, m'a fait à la fois la connaissance de mon pays et puis la connaissance de l'Afrique et de l'international font qu'on m'a confié la responsabilité de l'Agence française de développement et on m'en a confié une deuxième fois la responsabilité il y a quelques semaines.
Enfin,
qu'on est à un moment très particulier,
Rémi
Rioux,
où il faut... Vous présentez ça comme un fruit naturel, le fait que votre parcours vous est destiné à cette mission à la tête de l'AFD, ouais. Mais vous avez quand même dû vous battre pour l'obtenir. Votre nom s'est pas imposé tout seul comme ça, comme une évidence absolue.
Il faut toujours se battre, oui, bien sûr, mais il faut se battre compte tenu de ses convictions, compte tenu de ses compétences que j'espère mettre à la disposition du gouvernement, de la politique de développement et de l'agence que je dirige et l'histoire, puisque c'est ça ma formation initiale. Je crois qu'elle est particulièrement précieuse quand on parle de temps long, quand on parle de développement, quand on parle de mettre finalement du long terme dans le court terme, puisque c'est bien ça l'objet de nos travaux, l'objet de la politique de développement dans l'ensemble des politiques publiques à l'international, comme en France d'ailleurs.
Alors le rapport à l'Afrique, vous en avez parlé, il débute peut-être avec les travaux de votre père sur l'Algérie. Et ensuite, vous allez mettre en pratique une première expérience quand vous êtes à l'ENA, vous faites un stage au Bénin.
Alors oui, j'avais demandé quand je suis rentré à l'ENA de faire mon stage en Afrique. Il y avait toute une geste familiale alors, du côté de mon épouse, un grand-père compagnon de la Libération, quelque chose de très beau, des mémoires qu'il avait écrites.
Donc il faut préciser que les compagnons de la Libération étaient les premiers à avoir rejoint le général de Gaulle en 1940 à Londres.
C'est ces jeunes, lui, il était administrateur des colonies en Oubangui-Chari, vous voyez, à Bangui. Et puis un jour, il a entendu qu'il y avait un officier français qui avait dit « la guerre n'est pas finie ». Et puis autour d'un whisky avec leurs collègues, ils ont dit bon ben on va aller déposer le gouverneur. Et puis après ils sont partis la campagne d'Égypte, la campagne de Tunisie, la campagne d'Italie, la campagne de France. Et ils ont libéré notre pays.
Et ça vous a amené à Cotonou au Bénin, ça, pendant votre stage à l'ENA.
Ça m'a amené à vouloir débarquer en Afrique. Et puis comme vous le savez, hein, comme beaucoup de gens, c'est la première impression qui compte. Et puis quand on débarque sur le tarmac de l'aéroport de Cotonou, qu'on sent les odeurs, la chaleur, qu'on rencontre les gens, on sait que c'est pour la vie. Donc voilà. Après, quelles que soient les positions que j'ai occupées, nationales ou internationales, je sais qu'elles me ramènent toujours à l'Afrique comme un fil rouge dans ma vie.
Dites-nous en plus sur cette première impression que vous avez ressentie en arrivant à Cotonou.
Je la ressens à chaque fois que je reviens, et je reviens souvent. J'ai fait 100 voyages en 3 ans, donc, et la moitié probablement en Afrique, puisque c'est la moitié de l'activité de l'AFD. Et à chaque fois, vous avez une immédiateté, vous avez une force, vous avez des émotions, vous avez des sensations, et puis du travail, une qualité des interlocuteurs, une immédiateté dans la relation, qui fait qu'on a, je crois, en Afrique, quelque chose d'extrêmement particulier. Et je vois l'Asie, je vois l'Amérique latine. Donc,
et c'est pas la même chose en Asie, en Amérique latine.
C'est pas la même chose. C'est on y travaille très bien, on a des relations, mais.
Et concernant l'Afrique, autant l'Afrique anglophone que francophone.
Ah oui, non, vous savez, nous à l'AFD, on a une stratégie, ça s'appelle Toute Afrique.
Donc oui, d'accord.
On a arrêté.
Vos relations avec les Africains, oui, c'est les mêmes en Afrique anglophone que francophone.
On a la même immédiateté, oui, je crois, dans le contexte.
Alors vous avez été nommé en 2016 à la tête de cette agence française de développement par François Hollande. Vous venez d'être reconduit pour un second mandat par Emmanuel Macron. Votre premier mandat a été marqué par votre quête de ressources supplémentaires pour l'AFD. Vous avez été exaucé puisque le budget de votre agence a été augmenté de 2 milliards d'euros, soit par le gouvernement français, soit par l'Union européenne. Est-ce que cela veut dire que vous êtes de facto le ministre français du développement, de la coopération?
Le ministre du développement, c'est Jean-Yves Le Drian, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, qui met en œuvre l'ensemble de la politique internationale de notre pays.
Alors ça, c'est une réponse très diplomatique.
Non, pas du tout. C'est une réponse de nature républicaine, c'est-à-dire juridiquement. Le ministre, selon les décrets d'attribution du gouvernement qui a la charge du pilotage, qui est le chef de file de la politique de développement, c'est Jean-Yves Le Drian, avec Bruno Le Maire, avec Jean-Baptiste Lemoyne, le prolongement de l'ensemble de l'action de chacun des grands ministres sectoriels, qui, vous le savez, c'est la demande du président de la République Emmanuel Macron, du Premier ministre, sont invités à prolonger leur action, leur politique domestique, par un volet international et en particulier un volet africain. Et moi, je suis le responsable, le directeur général de l'agence qui est en charge d'accueillir ces attentes, ces demandes, ces projets et de les transformer ensuite et de les financer avec les fonds propres supplémentaires 2 milliards et demi que nous avons eu et les ressources budgétaires effectivement plus de 2 milliards par rapport au moment où j'ai pris les rênes de la maison. Donc ce qui est une transformation considérable, hein, ce qui nous donne notamment une capacité d'action en dons et non plus en prêts qui avait été très fortement érodé pendant longtemps en fait, pendant une dizaine d'années.
Donc c'est une renaissance de l'AFD?
Disons que c'est un renforcement avec beaucoup de confiance de nos autorités politiques. Je les en remercie et c'est très important pour nos collaborateurs. Et puis c'est un peu un repositionnement, effectivement, parce qu'on a beaucoup plus de capacités financières et beaucoup plus d'ambition.
Julien Clémenceau.
Alors justement, à l'occasion du renouvellement de votre mandat, vous avez été auditionné par les parlementaires. Ils ont pris acte de l'augmentation des moyens donnés à l'AFD et ils ont souhaité que le Parlement exerce un contrôle plus important, en tout cas, et plus d'informations sur la manière dont l'AFD dépense l'argent qui lui est confié. Est-ce que ça vous paraît totalement naturel.
Ça me paraît absolument naturel. Hein, je crois que l'étape dans laquelle nous sommes, c'est vraiment de convaincre nos concitoyens, ici en France, que les moyens qu'ils allouent, les moyens croissants mis dans la politique de développement et qui, pour partie, arrivent jusqu'à l'agence que je dirige, sont dans leur intérêt. Qu'ils y trouvent quelque chose qui répond à leurs angoisses.
Est-ce qu'actuellement, ils n'ont pas assez d'informations ? C'est ce qu'ils semblent dire ?
Ils en ont beaucoup. On en met de plus en plus sur les évaluations en particulier de nos projets. On vient de faire un rapport, on a mis en ligne une centaine d'évaluations d'ici à la fin de l'année pour que les gens puissent voir que nos projets produisent des résultats très concrets, ont de l'impact. Après, j'ai entendu la demande du Parlement. Moi, je trouve que cette procédure de l'article 13 de la Constitution, vous savez, un peu à l'américaine, là, où il faut aller présenter son bilan et son projet pour les trois prochaines années devant le peuple français, ses représentants. Et il y a un vote, hein, c'est pas quelque chose à prendre à la légère du tout. Et Marielle de Sarnez comme Christian Cambon, les deux présidents des commissions, m'avaient envoyé un questionnaire avant, donc j'ai fait une réponse écrite. Il y a eu cette audition que vous avez eu la gentillesse de regarder. C'était des questions-réponses dynamiques, hein, je crois, exigeantes. C'est très bien, ça nous aide et ça renforce la légitimité de l'agence que je dirige.
Mais les parlementaires ont aussi demandé à être représentés en plus grand nombre au sein du conseil d'administration de l'AFD. Est-ce que ça veut dire que
pas dit ça, parce que aujourd'hui, à dire vrai, vous avez 8 parlementaires au conseil d'administration de l'AFD, 4 titulaires, 4 suppléants, mais bien sûr, ils peuvent assister librement à tous les conseils d'administration. Donc, non, ce lien dans la gouvernance de l'AFD. Non, ce qu'ils souhaitent, c'est aller voir plus les projets sur le terrain. Moi, je leur ai proposé qu'ils participent à des évaluations indépendantes de l'action de l'AFD. Je leur ai proposé aussi qu'on ait un flux d'informations et qu'ils me signalent éventuellement des points à corriger. Moi, c'est très important pour moi d'avoir le maximum d'informations pour diriger la maison. Et puis que, par exemple, les groupes d'amitié, vous savez, il y a beaucoup de groupes d'amitié à l'Assemblée comme au Sénat. On est peut-être un rythme de préparation, une diffusion d'informations pour en faire là aussi des instruments qui contribuent à la politique de développement, peut-être plus qu'aujourd'hui. Et moi, j'y suis tout à fait favorable, évidemment.
À Niamey vient de débuter le sommet de l'Union africaine consacré à la mise en œuvre de la ZLEC, la zone de libre-échange économique continentale. Le Nigeria a annoncé il y a quelques jours qu'il se rallie à l'initiative après l'avoir longtemps boudé. Quel regard portez-vous sur cet ambitieux projet qui vise à doper les échanges intra-africains, notamment en supprimant les droits de douane sur la majorité des projets, 90% des lignes de produits?
Le contenu, les dynamiques de croissance africaine ont beaucoup changé depuis 25 ans. Il y a une hausse du revenu par habitant en Afrique depuis 25 ans. Il est temps qu'on s'en rende compte. Hein. Les courbes sont très très claires. Évidemment, ce sont des moyennes. Hein. Il y a des situations très diverses. Ce qui est intéressant, c'est que cette hausse du revenu par tête en Afrique correspond très exactement au moment où la croissance démographique décolle en Afrique. Donc la corrélation est totale. Ça ne dit rien de l'avenir, mais c'est ça qu'on observe depuis 25 ans. Et cette croissance, surtout, elle est moins tirée par les exportations, par l'extraversion du continent africain vers le reste de l'économie mondiale et de plus en plus par la consommation intérieure. Il y a un rééquilibrage qui est le signe évidemment d'une émergence de l'Afrique globalement. L'Afrique c'est l'Inde, hein, vous le savez, hein, à la fois la démographie et le produit intérieur brut de l'Afrique, c'est l'Inde aujourd'hui. Donc il faut qu'on... Et c'est beaucoup plus en vérité puisque...
C'est la même chose que l'Inde, c'est-à-dire milliard 200 millions d'habitants.
C'est exactement la même démographie et c'est exactement le même produit intérieur brut. Accessoirement, c'est le PIB de la France ou du Royaume-Uni aussi déjà. Hein. Autrefois, on disait l'Afrique, c'est la Belgique. Oui, et maintenant, il faut qu'on prenne la mesure de l'Afrique, de toute l'Afrique.
La différence, c'est qu'il y a un gouvernement central à New Delhi et 52 gouvernements en Afrique.
Je parle d'économie, je ne parle pas de politique, mais précisément, c'est vous qui m'avez parlé de politique, puisque vous m'avez parlé de l'Union africaine. Et donc, je crois que les dirigeants africains qui nous disent depuis très longtemps qu'il faut considérer l'Afrique comme un tout... Il faut prendre la mesure de toute l'Afrique pour comprendre toutes les Afriques. Les dirigeants africains qui savent souvent qu'ils n'ont pas des États qui ont mis des siècles, qui sont westphaliens, comme on dit, qui ont mis des siècles à se constituer comme la France ou le Royaume-Uni, précisément. Et donc, ils nous appellent à un appui aux intégrations régionales. Ils nous appellent également à appuyer, concevoir l'Afrique comme une panafricaine finalement, à l'échelle du continent. Et je crois que ce projet de libre-échange, ce qui se passe sur les questions monétaires, ce qui se passe, les intégrations régionales africaines vont plutôt bien, hein, y compris au plan politique. C'est quelque chose qu'il faut qu'on prenne en considération. À l'AFD, on l'a fait, pardon, d'ailleurs, en créant des directions régionales. Pardon, on viendra peut-être à l'AFD après, qui maintenant, il y en a 6 en Afrique, qui cherchent précisément à un niveau stratégique et opérationnel à prendre ce message et à le transformer en action.
Est-ce que de votre point de vue, le développement du commerce qui va être engendré par la création de cette zone continentale est un bon moyen pour réduire la pauvreté ?
La croissance économique, une croissance économique durable est évidemment moyen de lutter contre la pauvreté, d'enrichir les, et de ce point de vue-là, on sait que l'Afrique a des niveaux de commerce intra-zone, à l'intérieur d'une sous-région comme entre sous-régions, qui sont très très loin des chiffres qu'on connaît dans d'autres régions du monde. Donc, à l'évidence, là, il y a un progrès possible qui contribuera fortement à la croissance économique africaine et à la création d'emplois, hein, puisque l'enjeu principal, c'est quand même que la dizaine de millions de jeunes qui arrivent sur le marché du travail en Afrique. On crée pas 3 millions d'emplois formels, mais on en crée 10, quoi. Ou plus d'ailleurs, parce qu'il faut aussi que le stock et que l'informel se transforme progressivement en formel pour donner des droits et de la protection aux individus.
Rémy Rioux, Christine Lagarde va quitter ses fonctions, oui, à la tête du FMI avec 2 ans d'avance.
C'était ma ministre autrefois.
Oui.
Je l'avais aidée dans sa campagne d'ailleurs, oui, pour sa première. Je me souviens d'une assemblée de la Banque africaine. On était allé voir tous les ministres africains, oui, d'ailleurs, et qu'il avait très bien accueilli et soutenu. Et c'est très important parce que Christine Lagarde, elle connaît l'Afrique, elle connaît les questions de développement, elle connaît les questions économiques, elle va les amener encore plus en Europe.
Alors justement, laissez-moi vous poser ma question. On l'a pas mal vu, Christine Lagarde, en tant que directrice générale du FMI en Afrique. Comment jugez-vous son bilan à la tête du FMI? Et est-ce que son passage du FMI à la BCE, donc à une action plus recentrée sur l'Europe et moins internationale, moins universelle, est-ce que ce passage d'une institution à une autre vous fait perdre une alliée?
Bon, je crois qu'il y a un universel des banques centrales. Il y a une action collective des banques centrales. Elle nous a sauvés en 2008. Elle est extrêmement importante. Le bilan de Christine Lagarde au FMI, d'autres que moi sont mieux placés pour le faire, mais il est évidemment extrêmement positif. Et vous le mesurez d'ailleurs très simplement à l'image que le FMI aujourd'hui a en Afrique notamment, ou dans le monde entier, en particulier dans le monde en développement, à comparer à l'image que le FMI avait, d'ailleurs ça avait déjà pas mal bougé, mais disons il y a 15 ans au moment des ajustements structurelle. Et Christine Lagarde, vous le voyez dans toutes ses prises de position, elle est l'une de celles aujourd'hui qui porte le discours sur l'égalité entre les femmes et les hommes, par exemple. Elle le
Mais
dit tout
est-ce
le temps
que vous perdez une alliée
sur le capital humain, sur le climat. C'est l'allié d'Antonio Guterres dans la lutte contre le changement climatique. C'était pas totalement évident que le FMI devienne une force pour transformer le système financier vers le climat et vers les objectifs de développement durable. Et ça, elle l'a pris avec beaucoup de force. Donc oui, j'espère que son successeur sera aussi engagé sur ces questions de développement. Parce que le développement, c'est pas quelque chose d'extérieur. C'est quelque chose dont l'ensemble du système financier international doit prendre la mesure et contribuer à financer. Et pas seulement, et on viendra peut-être à mon livre et une nouvelle conception de la politique de développement et de ses instruments, mais elle doit avoir un effet d'entraînement sur les autres flux financiers, évidemment. Et ça, la vigie FMI, elle est absolument essentielle pour transformer cet essai.
Rémy Rioux, l'ONG Oxfam vient de publier un rapport dans lequel elle souligne que les politiques sécuritaires des pays sahéliens grèvent lourdement les budgets sociaux, cela même alors que les inégalités dans la région sont criantes et qu'elles expliquent en partie l'instabilité et la violence régionale. Écoutez à ce sujet ce qu'en dit Robin Guittard de l'ONG Oxfam.
Pour nous, l'aide publique au développement doit participer à la lutte contre les inégalités. Et actuellement, c'est pas assez le cas. Au Sahel, c'est extrêmement marqué, justement. Et dans le cadre actuel, notamment avec un G7 qui fait de la lutte contre les inégalités et qui fait du Sahel sa grande priorité, c'est un des éléments sur lequel le G7 peut vraiment agir. Le G7, c'est les 3/4 de l'aide publique au développement au monde. Il doit donc réorienter son aide publique au développement vers cet enjeu. Quand on parle, par exemple, du cas de la France, notamment notre opérateur français de l'aide publique au développement, l'AFD, pour nous, malgré des discours qui sont de dire, effectivement, les questions des inégalités est au cœur du mandat de l'AFD, mais en fait, dans les faits, pour nous, on fait pas assez. Entre 2016 et 2017, la part des opérations du portefeuille de l'AFD qui va vers le secteur privé est passée de 14 à 19%, pendant que la part pour la santé et l'éducation est passée de 7 à 4%. Alors qu'on sait très bien que investir dans l'éducation, investir dans la santé, dans des secteurs publics et de qualité, c'est la meilleure manière de réduire les inégalités.
Comment expliquez-vous cette évolution ? À quoi est-ce que c'est dû ?
Pour nous, un vrai élément idéologique où actuellement, au niveau des bailleurs internationaux et la France en particulier, où on voit le secteur privé actuellement comme la solution aux différents problèmes et notamment aux différents problèmes de financement du développement international et d'atteinte des objectifs de développement durable. Nous, ce qu'on dit chez Oxfam, c'est il faut faire attention. Le secteur privé peut jouer un rôle effectivement dans l'accompagnement des pays en voie de développement dans leur développement. Mais attention, il est extrêmement important justement que cette question des inégalités soit au cœur des politiques de développement qu'on promue. Et ça, ça veut dire aussi par des politiques sociales et surtout des services public d'éducation et de santé.
C'était donc Romain Guittard de l'ONG Oxfam dans Éco-d'ici, Éco d'ailleurs sur RFI. Nous parlons donc avec Rémy Rioux qui est le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. Beaucoup de choses dans cet entretien, Rémy Rioux. L'AFD est-elle la proie d'un prisme idéologique libéral ?
Non, pas du tout. Mais je crois qu'on n'est pas en désaccord avec ce que dit Romain Guittard. Hein. Et d'une certaine façon, ce qui s'est passé en 2015, hein, moi je reviens toujours à 2015, c'est notre matrice, c'est-à-dire le sommet de New York sur les objectifs de développement durable et l'accord de Paris sur le climat. C'est quelque chose de très fondateur et qui va au-delà de ces débats. C'est une réconciliation, moi je dis, hein, qui va au-delà de ces débats finalement un peu anciens entre secteur privé, secteur public, entre prêts et dons, entre libéralisme et je ne sais pas, et socialisme. on est rentré dans autre chose. Je crois que tout le monde a pris conscience qu'il fallait à la fois, évidemment, des moyens publics en dons, en particulier pour financer ce que personne ne finance. Et ne financera à horizon prévisible. Donc, bien sûr, l'effort que nous faisons dans le Sahel, le président de la République, c'est la première semaine de son mandat, est allé à Gao. Il a dit, je vais continuer l'effort de sécurité, mais je vais ajouter l'effort de développement, en particulier pour l'éducation des jeunes filles et la santé. Ça s'appelle l'aide publique au développement, évidemment. Et il faut non seulement la préserver, mais il faut l'augmenter. Et c'est ce que la France est en train de faire. Mais... les objectifs de développement durable, c'est beaucoup plus ambitieux que ça. La lutte contre le changement climatique, c'est beaucoup plus ambitieux que ça. On va pas la financer avec 150 milliards de dollars. Ou même 300 si tous les pays du monde consacraient 0,7% de leur revenu national. Vous savez, c'est l'engagement international. Ça doublerait. Donc on aurait 300 milliards de dollars. Mais 300 milliards de dollars, ça n'est pas commensurable. Et à l'échelle des objectifs de développement durable. Donc il faut absolument qu'on utilise une partie de ces ressources précieuses pour aller chercher les autres acteurs, y compris d'autres acteurs publics. Il n'y a pas que le secteur privé. Il y a les entreprises publiques, il y a les banques publiques. Et puis le secteur privé, et y compris le monde de la finance, comme on dit, hein, le monde financier, pour qu'ils intègrent progressivement les objectifs de développement durable et l'Afrique dans leurs priorités.
Mais quand Robin Guittard dit on donne plus d'argent au secteur privé, l'AFD donne plus d'argent au secteur privé et moins... Non. Pour les questions de santé, est-ce que là, il n'y a pas une critique fondée ?
Ben non, c'est-à-dire dans l'AFD, c'est bien rangé. Hein, vous avez une filiale qui s'appelle Proparco, qui est l'instrument qui finance le secteur privé du Sud, d'ailleurs. Hein. Mm-hmm. Nous, on finance pas les entreprises françaises directement, on finance des entreprises du Sud, donc qui créent de l'emploi. Et Proparco, ça pèse 2 milliards dans le groupe AFD. Le groupe AFD, cette année, l'année dernière, c'était 11 milliards et demi. Cette année, on doit atteindre la cible de 14 milliards. Donc ça vous donne un peu une idée de la place, je dirais, de l'instrument secteur privé dans l'ensemble de l'agence.
J'insiste, parce qu'il dit qu'il y a plus d'argent pour le privé et moins pour le public, donc pour les questions de santé.
Non, je pense qu'il y a une petite confusion, je pense qu'il veut parler des prêts et des dons. Vous voyez, mais quand on fait des prêts, donc c'est vrai que la part des dons dans l'activité de l'AFD, pendant un certain nombre d'années, s'est réduite. Ce qui nous a conduit à investir moins dans les secteurs de l'éducation et de la santé, dans lesquels il faut des dons, très souvent. Même si on fait aussi des opérations d'investissement.
Aujourd'hui, vous en êtes où en quantité ?
Et donc là, maintenant, on est à plus de 3 milliards de dons sur, vous voyez, sur 11 milliards et demi de financement. Et le reste, ce sont des prêts. Mais les prêts, c'est pas, ça va pas au secteur privé. Le prêt, ça peut aller à un, on peut prêter à un gouvernement, on peut prêter à une banque publique, on peut prêter à une entreprise publique qui apporte des services et des biens aux populations que nous souhaitons toucher.
Julien Clémenceau.
Rémy Rioux, vous étiez récemment à Kigali, vous avez été longuement reçu par le président Kagame, vous espérez démarrer prochainement des programmes au Rwanda.
Absolument.
Les chiffres connus au Rwanda sur la réduction de la pauvreté sont sujets à caution. Il y a eu des polémiques, notamment l'an dernier. Le gouvernement dit que la pauvreté baisse. Certaines ONG disent que c'est pas exactement le cas. Est-ce que le modèle économique rwandais mérite tous les éloges qu'on lui fait généralement?
Pardon, je fais une petite incise, je fais un petit lien avec la question précédente et le commentaire de Romain Guittard. Parce qu'au début de sa question, il n'y avait pas que secteur privé, il y avait sécurité, développement.
Oui,
on y reviendra. Parce que j'en ai parlé au président Kagame et c'était extrêmement intéressant.
Alors le modèle, donc le j'étais, modèle non, de j'étais développement
le, Je signalais quand même que j'étais le premier directeur général de l'Agence française de développement à se rendre au Rwanda depuis 1992. Donc ça faisait 27 ans que nous n'avons plus d'activité au Rwanda. Et donc je pense que c'était important dans le cadre évidemment de la relation bilatérale. Et dans le cadre politique qui a été fixé par le président et le ministre, d'essayer d'amener des éléments de réconciliation, hein, à nouveau, je reviens à mon livre, des éléments, disons, concrets, des preuves que les relations entre nos deux pays s'améliorent. On a beaucoup parlé d'éducation, par exemple, c'est assez nouveau, avec les autorités rwandaises. Et puis, quand même, on m'a expliqué, j'en viens à votre question, on m'a expliqué un peu le management public au Rwanda. Donc, je ne sais pas si vous avez, si vous êtes intéressé à ce point, mais c'est quelque chose d'assez spectaculaire.
Vous voulez dire par la performance, l'exemplarité, la gouvernance.
Tous les ministres, tous les directeurs d'administration centrale, tous les patrons d'agences d'État, ils ont tous un contrat de performance au Rwanda, fixé par le plus haut niveau. Chaque année, vous avez en fin d'année une sorte de grand débat, là, comme a fait le président Macron. Ça s'appelle le National Dialogue. Donc tous les citoyens rwandais, par tout moyen, peuvent poser des questions sur les services publics, par SMS, par réunion publique, devant le président et ses ministres. Et puis après, il y a ce qu'ils appellent le Leadership Retreat, pendant 3 jours... Mais ça produit des résultats. On les voit d'ailleurs, vous êtes allé à Kigali comme moi, vous êtes allé dans le pays, vous voyez le résultat d'une situation, évidemment, un pays qui reste un pays parmi les moins avancés, qui est un pays pauvre, mais qui a eu un chemin...
Et qui n'est pas non plus un des plus démocratiques.
Mais là, on ne parle pas de vous parlez
pas
de démocratie.
Quand vous parlez du grand débat, vous parlez de démocratie.
Oui, ben, il y a ça, c'est un exercice démocratique que j'ai observé dans la pratique rwandaise. Donc je vous le dis parce que j'en reviens. Quand je vais dans un pays,
vous ne savez pas ce que les gens s'autorisent à dire ou pas à dire.
Non, mais je vois à quel point les dirigeants publics rwandais que j'ai rencontrés, j'en ai rencontré beaucoup pendant ces 3 jours, prennent ces procédures, prennent ces messages en considération, visiblement dans la façon dont ils conduisent les politiques publiques et les résultats qu'ils recherchent. Et je crois quand même, il peut y avoir beaucoup d'avis, mais que le parcours d'un point de vue économique, social du Rwanda est remarquable quand même depuis une vingtaine d'années.
Alors Rémy Rioux, venons-en à votre livre. Je disais tout à l'heure qu'il s'appelle Réconciliation, ouais. Donc vous venez de le publier, il arrive en librairie en ce moment. N'est-il pas, vous appelez à la réconciliation entre Urbi et Torbi, en quelque sorte, entre pays développés et pays en développement, pour arriver à accomplir les objectifs du développement durable, et plus encore, on y reviendra, ce que vous appelez les IDD. N'est-il pas un peu naïf de prôner cette réconciliation quand la scène internationale est tenue par des Trump, des Poutine, des Xi Jinping, qui ne pensent qu'à une chose, c'est avancer leur pion, de faire gagner leur pays au détriment de toute autre force, quand c'est l'égoïsme national qui prime? On est sur une scène de lutte, sur une scène de boxe en ce moment.
Oui, vous avez raison, on entend beaucoup de discours de force, de discours de puissance, de discours... On a parfois tendance à raisonner uniquement selon cette grammaire. Moi, à la fois comme citoyen, et puis dans mes responsabilités de directeur général de l'AFD, j'ai voulu prendre position dans ce débat, en amenant effectivement, vous avez raison, un papier, un livre qui a amène une dose d'espoir, parce que je pense qu'il y a matière à avoir espoir et une dose d'engagement. Alors après, j'ai essayé de pas faire quelque chose de déterré et de naïf, parce que très précisément, ce livre et le concept de réconciliation que je propose un peu comme nouveau récit, il est fondé vraiment sur l'action très concrète, sur ce qu'est un projet de développement tel que je la vis, je l'observe dans la pratique de l'Agence française de développement. Donc vous verrez d'ailleurs dans le livre, il y a deux chapitres qui se succèdent. Il y en a un que j'ai appelé Théorie de la réconciliation.
On a vu, vous savez.
Et un qui s'appelle Histoire de réconciliation pour immédiatement montrer que cette théorie, cette méthode, parce que finalement la réconciliation c'est une méthode, on peut l'appliquer à plein d'objets, à des situations très concrètes, à différents évidemment enjeux qu'il faut réconcilier, ou territoires, ou populations, et que ça produit des résultats concrets. Donc, vous voyez, une réconciliation, pour moi, il y a l'acceptation de l'autre. Ça, c'est extrêmement important. Accepter qu'on est fâché, d'ailleurs, qu'on a un sujet, un problème. C'est un exercice de vérité plus que de justice. Il faut des études, il faut de l'analyse. C'est un exercice qui change la réalité. Ça n'est jamais le retour à un âge d'or, une réconciliation. C'est un troisième état qu'on crée à partir de deux états d'opposition. Et puis, j'y disais tout à l'heure,
c'est de la durée,
c'est de l'évaluation, c'est des résultats. Et ces quatre éléments que vous trouvez en Afrique du Sud dans la réconciliation, que vous trouvez au Canada avec les peuples premiers, que vous les retrouvez dans chacun de nos projets de développement. En fait, ça correspond très exactement au cycle d'un projet de développement tel que les professionnels du développement le pratiquent depuis, l'ont élaboré au fil du temps dans la durée. Donc, c'est une façon de dire que, vous voyez, moi j'ai tendance à dire les 3D, le D de défense, il sert à la cessation des combats. C'est ça sa fonction, ce qu'il libère. Le dé de diplomatie, il sert à la pacification, il fixe le cadre politique dans lequel les acteurs s'inscrivent. Et le dé qu'on a un peu tendance à oublier des fois, ou à subordonner, le dé de développement, il amène la réconciliation. C'est-à-dire le lien, le jeu entre les acteurs et leur inscription dans la durée, parce que c'est toujours, ça prend toujours beaucoup de temps, une réconciliation.
Julien Clémenceau.
Rémy Rioux, dans ce titre réconciliation, il me semble qu'il y a aussi un passage lié à la France et à l'histoire coloniale de la France, qui c'est un sujet qui semble passer de mode de notre côté de la Méditerranée. Effectivement, on revient au point de départ, mais qui brouille encore nos rapports avec le continent. Est-ce que vous pensez que la France a un chemin à parcourir encore avec ses anciennes colonies?
Il y a un très beau livre que vous avez peut-être lu de Souleymane Bachir Diagne, le philosophe sénégalais, et Bernard Amsellem sur ce qu'ils appellent un universel de surplomb, comparé à un universel finalement du partage entre les populations. Donc oui, il y a de l'universel entre nous tous. Parfois, on a tendance à le définir nous-mêmes.
C'est encore le cas en France ?
Je crois pas que ce soit le cas en France. Je crois que vous avez lu, moi j'étais dans l'amphithéâtre de Ouagadougou, surchauffé à la fin du mois de novembre 2017. Donc ça, je peux vous renvoyer aux mots que le président de la République a prononcé à cette occasion-là, qui était cet appel à un décentrement du regard, cet appel à la jeunesse africaine, cet appel au tout Afrique. Donc essayer de surprendre, et on va avoir, d'ailleurs, vous savez, on est au début d'une longue séquence jusqu'à la fin de l'année 2020, où on va beaucoup parler de développement et d'Afrique en France, et on va avoir l'occasion, le président le premier, et nous tous, je l'espère, d'expliquer voilà cette universalité, cette force dans notre propre pays. Et donc oui, dans réconciliation, il y a aussi ce concept qui est disponible, qui, je crois, peut accueillir beaucoup d'éléments. Et il y a aussi une dimension historique. Absolument, je l'ai mis dans mon livre.
Alors dans ce livre, vous dites que le financement des objectifs de développement durable de 2030 n'est pas fait, qu'on est dans une impasse. Et vous proposez un nouveau concept, l'investissement de développement durable. L'IDD, on passe de l'ODD, des ODD aux IDD. De quelle impasse parlez-vous et quel est ce concept qui permettrait d'en sortir ?
Alors c'est ce dont nous parlions à l'instant, hein. C'est-à-dire vous avez un référentiel qui est établi depuis longtemps, qui est très clair et qui est très important, c'est l'aide publique au développement. L'aide publique au développement, encore une fois, 150 milliards de dollars, elle avait pour fonction de lutter contre la pauvreté et d'assurer un minimum à chacun. Ça, c'était un petit peu, vous savez, la génération d'objectifs internationaux précédentes. C'était les objectifs du millénaire pour le développement. À l'époque de Kofi Annan, de Jacques Chirac, au début des années Tony Blair, au début des années 2000.
On a l'impression que c'est très loin.
On a l'impression que c'est très loin, mais vous savez, on a fait le bilan en 2015, on a vu que ça avait assez bien marché, en fait, hein, et que beaucoup de gens dans le monde étaient sortis de la pauvreté, avec maintenant, évidemment, notamment en Afrique, des sujets plus pressants auxquels il faut... Et c'est pour ça qu'il faut garder l'APD, il faut continuer à l'augmenter. Mais...
L'APD, l'aide publique au développement.
L'aide publique au développement. Mais les objectifs de développement durable de 2015, de septembre 2015, c'est une autre ambition. C'est plus un minimum pour chacun, c'est plutôt un optimum pour tous. Et vous savez, il y en a 17, il y en a beaucoup plus, il y a beaucoup de liens entre eux.
Objectif 2030.
Avec un agenda 2030 qui ira d'ailleurs, à mon avis, jusqu'en 2050, puisque c'est en train de rattraper, vous savez, le grand objectif auquel beaucoup de pays souscrivent, qui est la neutralité carbone en 2050. Et le climat, c'est un des principaux ODD, évidemment. Et donc la question,
mais donc,
c'est...
quel est l'impasse ?
Donc le sujet, c'est comment on va financer cette ambition démultipliée, beaucoup plus grande que s'est fixée la communauté internationale. Et quel est le cadre d'incitation, le volume, vous avez raison, financier qui va permettre de réaliser les bons investissements.
L'impasse, c'est quoi ?
C'est pas une impasse.
C'est qu'il n'y a pas assez d'argent.
Non, justement, précisément, la bonne nouvelle, c'est que quand on raisonne seulement selon les normes de l'aide publique au développement, il n'y a jamais assez d'argent. Quand vous raisonnez dans le nouveau monde des objectifs de développement durable, vous commencez à regarder l'ensemble des flux financiers. On va venir peut-être à IDFC, par exemple, qui est
le club que je dirige.
Mais c'est le bon exemple, parce que le club IDFC, c'est 850...
Non, j'en parle pas tout de suite.
Mais donc, vous avez 20, avez 20 trillions de dollars...
Répondez à mes questions, Rémi Rioux. Donc, l'impasse, c'est quoi? Et les IDD, c'est quoi?
La question, c'est... Vous avez 20 trillions d'investissements chaque année dans le monde, et autant, un petit peu plus d'épargne. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces investissements? Est-ce que ce sont des investissements dans le charbon, dans des centrales thermiques, dans des chaînes de valeur qui détruisent la biodiversité, qui déchirent les tissus sociaux? Ou est-ce qu'on trouve un cadre international? Est-ce qu'on trouve une méthodologie? Est-ce qu'on trouve les bonnes incitations qui supposent des instruments publics pour que, ben, au contraire, on fasse des investissements dans des énergies renouvelables? On préserve la biodiversité.
Dans le cas de l'Afrique, on peut tout à fait comprendre que certains pays choisissent encore, par exemple, de financer des projets avec des centrales thermiques.
Alors là, je vous ai fait un raisonnement global.
Voilà.
Et ces 20 trillions, ils sont à l'échelle du monde. Après, il y a des enjeux très spécifiques à l'Afrique qui font, par exemple, que l'aide publique au développement se tourne en priorité vers l'Afrique et qui fait aussi que la trajectoire vers la cible 2030-2050 ne sera pas les mêmes parce que le point de départ n'est pas le même. Et vous avez raison, l'Afrique pollue très peu aujourd'hui comparé à d'autres régions du monde.
Alors venons-en à avec Julien Clémenceau, une thématique que vous avez esquissée tout à l'heure, c'est celle de la relation entre la sécurité et le développement. Julien Clémenceau de Jeune Afrique.
La présence de l'AFD n'est qu'un des pans de la présence française dans le Sahel. Il y a bien sûr la présence militaire à travers Barkhane, et l'AFD est étroitement associée à la force militaire. En 2016, donc au début de votre premier mandat, vous aviez conclu un accord de coordination avec l'état-major des armées. Est-ce que cet accord est toujours en vigueur et comment il fonctionne ?
Moi, je suis très attaché au 3D. J'ai commencé, j'essaie même de le théoriser un petit peu.
Mais ne soyons pas trop théoriques, restons
absolument
pratiques.
Mais ce que je veux dire, c'est que le développement, c'est un élément, d'action dans le Sahel en particulier. Mais simplement, il n'est pas... Vous voyez, dans votre présentation, on a l'impression que je travaille pour le ministère de la Défense. Pas du tout. C'est pas du tout ce que me demandent les militaires. Les militaires, ils veulent un instrument de développement qui fait son travail d'instrument de développement pleinement, qui réconcilie. Vous voyez, c'est-à-dire que eux, ils ont une fonction à remplir, qui est, encore une fois, de rétablir l'ordre.
La combinaison militaire-humanitaire, elle n'a jamais fonctionné, ni en Irak, ni en Afghanistan. Alors pourquoi ça fonctionnerait au Sahel?
Parce que je pense qu'on a évolué dans nos têtes. Je pense que, par exemple, dans le passé, vous savez, on imaginait, il y avait le temps de la défense. Donc là, on séparait les belligérants. Ensuite, il y avait le temps de la diplomatie, on avait l'accord politique. Puis après, il y avait le temps du développement. Que tout ça était séquentiel. Et en fait, du coup, vous aviez des ruptures de charge, et les gens du développement, ils arrivaient toujours trop tard. Là, on n'est pas du tout dans ce cadre. On essaie d'avoir les trois composantes, les trois politiques publiques en même temps, d'où ce rapprochement, cette programmation. Les militaires, vous savez, ils sont comme les gens du développement, ils programment à 5 ans, ils sont très organisés, nous aussi. Et donc maintenant, on essaie d'accorder nos violons pour agir
sur
le Sahel. Typiquement, je vais vous dire, dans le Sahel, donc vous avez un effort français qui s'appelle Barkhane, que vous connaissez. Vous avez un effort AFD qui est en très forte augmentation. On a engagé 2 milliards d'euros depuis 5 ans, dont 1 milliard les deux dernières années. Et on duplique ça par un effort en construisant des coalitions internationales. Donc vous avez la MINUSMA, vous avez, et on a l'Alliance Sahel.
Non, mais Rémi Rioux, est-ce que ça veut dire que quand les militaires vous disent il faudrait faire un projet ici, vous le faites à l'endroit où ils vous l'indiquent. Est-ce que ce sont eux qui vous indiquent où il faut que vous investissiez
non,
votre argent?
Pas du tout. C'est pas les militaires qui me disent ça. C'est le chef de l'État. C'est l'État français qui fixe les priorités en dialogue évidemment avec les ministres, les chefs d'État du G5 Sahel pour voir où sont les zones de fracturation, de tension sur lesquelles il faut appliquer les différents instruments. L'instrument politique, l'instrument de défense, l'instrument de développement, sans en oublier aucun. Donc vous voyez, c'est pas les militaires qui
mais
dictent...
Mais est-ce que vous avez l'impression que ça donne vraiment des résultats? Parce que les États sahéliens, ils sont pas renforcés par cette politique.
Ben ça a donné, alors on a un biais cognitif bien connu, on voit que ce qui va mal, donc très bien, continuons. On a des cas, j'en ai mis dans le livre, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire en 2011 par exemple, on a tendance à critiquer la Côte d'Ivoire, mais l'instrument de développement a joué un rôle extrêmement important dans la sortie de crise en développement, à côté de l'instrument politique. C'est une réussite ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire en 2011, j'en ai été un des acteurs, je le défends.
Sur la Côte d'Ivoire.
Et dans le Sahel, on est tous à la manœuvre, là, on travaille. Donc qui peut prédire l'issue de la crise?
Vous êtes assez optimiste.
Le G7 hier, hein, j'ai assisté à la séance autour de Jean-Yves Le Drian, tous les pays du G7 ont accepté de rentrer dans l'alliance Sahel que je vous décrivais, ces 12 partenaires, ces 12 agences de développement qui produisent des milliards d'euros et qui augmentent des 700 projets en cours dans la zone du G5. Jean-Yves Le Drian avait invité les ministres et le secrétaire permanent du G5 Sahel pour la première fois, c'était une rencontre G5-G7, ça c'était, on parlait de l'universalisme, c'était très spectaculaire et on a parlé très concrètement des actions que nous menons.
Est-ce que vous n'êtes pas optimiste un petit peu tôt.
Vous étiez à Ménaka, je crois, la semaine dernière. Hein. Donc vous voyez ce qu'on fait, y compris dans des zones rouges extrêmement
mais
difficiles.
Mais vous êtes extrêmement optimiste pour l'Alliance Sahel. Ça vient de...
Je suis pas optimiste, ça vient je suis engagé. Commencer. Je suis engagé. Moi, c'est mon travail. On m'a nommé à cette place, livre, pas pour me lamenter, pour agir.
Dans votre livre, vous êtes assez optimiste et vous montrez cette coopération comme étant exemplaire alors qu'elle vient de débuter. Et qu'elle va se faire et s'exercer.
Je l'ai pas mis dans Histoire de réconciliation, donc je l'ai pas présenté comme un exemple de réussite.
De réponse quoi, Frémy Rioux ?
Je l'ai mis plus loin dans le chapitre sur l'Afrique, donc je suis pas optimiste. Je suis concentré.
Alors on l'a dit au début de l'émission, vous y avez fait allusion tout à l'heure. Vous présidez une organisation des banques nationales de développement qui s'appelle l'IFDC, International Finance Development Club, et qui s'est réunie la semaine dernière à Casablanca au Maroc. Un reportage Écho d'ici Écho d'ailleurs, signé Théo Olivier.
D'une poignée de mains amicales, Rémy Rioux, président de l'AFD et du Club de Développement de Finances Internationales, l'IDFC, a scellé un partenariat avec Yannick Glemarek, directeur exécutif du Fonds vert pour le climat. Cette institution financière des Nations Unies travaille déjà sur des projets de finances vertes avec 11 banques de développement de l'IDFC, comme s'en félicite Yannick Glemarek.
On a déjà un portfolio d'un peu plus de 800 millions de dollars. Ça va simplement accélérer le développement de ce portfolio. C'est un partenariat très concret qui identifie des mesures qu'on peut immédiatement mettre en œuvre, donc notamment faciliter le développement d'un portfolio de projets bancables dans les pays en voie de développement et des initiatives très concrètes en matière de plaidoyer pour une nouvelle politique de finances climatiques, aussi le développement de plusieurs produits de gestion de connaissances, etc.
Et quand on évoque cette déclaration de partenariat qui n'est pas contraignante, Yannick Glemarek reste ferme.
Quand vous avez deux institutions qui font l'effort de négocier pendant des mois un partenariat, c'est parce que les deux organisations sont convaincues que c'est critique. Elles ne s'engagent pas dans ce genre de négociation simplement pour le plaisir d'avoir une signature.
Après s'être concentré sur la mise en œuvre de l'accord de Paris, le club de banquiers travaille sur l'application des objectifs de développement durable, les ODD, fixés par l'ONU. Ami Taoufiki de la Caisse marocaine de dépôt et de gestion est l'hôte de cette réunion casablancaise.
L'idée, c'est de ne pas obliger les uns les autres à se focaliser sur un objectif. Mais en fait, ce qui est important, c'est de voir comment ce cadre-là, le ODD, puisse définir un langage commun, parce qu'il y a une diversité. Il y a des banques locales, banques régionales, il y a des pays qui sont des stades de développement différents. Le financement est tellement important. Non seulement on doit conjuguer nos moyens, mais aussi aller chercher et attirer le privé. Je dirais, on n'est pas du tout dans la concurrence, au contraire.
Quatre banques de l'IDFC viennent du continent africain. C'est le cas de la Banque de développement de l'Afrique australe, dirigée par Patrick Dlamini. Royaume-Uni. Il travaille surtout sur le financement d'infrastructures.
Les défis africains sont plutôt importants. Nous devons être plus créatifs en essayant de trouver des solutions pour faire des projets viables sur le plan bancaire. Beaucoup de pays ne peuvent pas financer ces projets parce qu'ils sont très faibles. Donc, nous sommes en mesure de monter des projets sans la garantie des États. Mais nous tentons d'insister pour que la transparence, les finances, la gouvernance et des approvisionnements propres soient vraiment mis en place.
La prochaine réunion se tiendra en octobre, en marge des assemblées annuelles de la Banque mondiale à Washington.
Un reportage signé Théa Olivier, je vous vois esquisser un sourire en écoutant ça.
Ouais, pff, j'adore moi. c'est la forme, une des formes que prend ce nouveau monde des ODD, prenez la mesure de ce que c'est un club, alors il est récent, il a été créé en 2011, c'est un club unique, c'est-à-dire vous avez 25 institutions financières, Nord-Sud, moi je suis du Nord et je préside un club de banque du Sud en fait, puisque sur les 25, en gros vous en avez 5 du Nord, les Français, les Allemands, les Japonais, les Italiens, et puis les 20 autres, vous les avez entendus, c'est les grandes banques du Sud, c'est la Caisse des dépôts et de gestion du Maroc, c'est la DBSA d'Afrique du Sud, c'est la BNDES du Brésil, c'est la China Development Bank, la plus grande banque du monde dont on parle beaucoup, elle est dans ce club, ils étaient présents à Casablanca, ils ont envoyé quelqu'un de Pékin, et on discute de finances climat, on discute de... Et voyez, la thèse de ces instruments, c'est ce ne sont pas les banques multilatérales, c'est les institutions qui ont la taille suffisante pour entendre les messages internationaux et qui ont les pieds totalement dans leur propre pays, dans leur système financier, dans leur système politique, dans leur système local. En France, c'est un petit peu, j'avais poussé l'idée, vous le savez, on a une alliance, c'est l'AFD et la Caisse des dépôts. C'est l'AFD qui va à la COP, qui va à la conférence climat, qui entend le message climat et qui la passe... Parce qu'il s'adresse à elle, à la Caisse des dépôts, qui est en train de faire sa révolution climatique et de développement durable. Et ça, si vous le faites à l'échelle du monde, vous reprenez espoir. Parce que, c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure, la taille financière de ce club IDFC, c'est chaque année 850 milliards de dollars. Dont 200 déjà, plus j'espère à l'avenir, uniquement pour le climat.
Mais c'est, donc, beaucoup, beaucoup plus que l'aide publique au développement.
Eh bien, beaucoup plus, très largement.
Comment ça s'opère cette...
Ce sont des banques, donc oui. Elles lèvent de l'argent sur les marchés, puis elles le prêtent. Évidemment, ce sont des banques publiques, c'est ça leur beauté. Donc ça veut dire que c'est des instruments qui prêtent à plus long terme, ou qui prêtent à des taux d'intérêt réduits, ou qui vont sur les sujets les plus difficiles. Et si vous ajoutez à ça la capacité financière des banques multilatérales de développement, la Banque mondiale et les autres, 850 plus 200, vous avez un trillion d'argent public, sur 20, hein, je vous ai dit tout à l'heure, l'investissement mondial chaque année c'est 20 trillions, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on le tourne? Comment on l'utilise pour... Donc le volume est là, maintenant le sujet c'est le cadre, le mandat, les incitations pour que cet argent public transforme l'argent privé.
Des intérêts de ce club, c'est notamment la mise en place de la coopération avec la Chine. C'est ça, hein. Alors, c'est intéressant de les faire rentrer dans le jeu du développement et de l'aide au développement mondial.
Les Chinois sont là, ils ont une voie bilatérale, évidemment, qui est très forte, un dialogue avec les autres États en tête à tête. Et puis, vous le savez bien, les Chinois, ils sont observateurs au Club de Paris, par exemple, le Club des créanciers publics. Ils sont très présents, on l'a vu à la FAO récemment, dans la gouvernance multilatérale.
Oui, et IDFC... Ils ont damé le pion aux Français.
Ils sont là, ils font des choses. La question, c'est comment on les amène dans plus d'actions collectives et à faire des choses qui sont bonnes pour la planète et bonnes pour les hommes. Et le club IDFC, je veux pas non plus l'alpha et l'oméga, mais c'est un des endroits où un très très grand acteur financier chinois commence à toucher l'eau, voir la température et s'engager. On essaye de faire des projets ensemble au Sénégal, par exemple, avec eux. Si on y arrive, ce serait très très positif.
Alors, sur la Chine...
C'est la fin de mon livre, c'est le dernier chapitre.
Je vais vous demander une réponse très rapide parce qu'on arrive tout à la fin de l'émission, Rémy Rioux. Pourquoi est-ce que l'AFD investit en Chine, qui est un pays riche?
Vous savez, nous, on n'est pas, d'une boutade, je peux vous dire, on n'est pas l'agence française de développement, on est l'agence chinoise de développement. Puisqu'en fait, ce qui se passe, c'est les Chinois nous achètent des obligations que nous émettons et nous leur reprêtons.
Donc en fait, c'est de l'argent chinois qui passe par l'AFD. Et pourquoi il passe par l'AFD ? Parce qu'on vit dans un monde en commun, parce qu'ils veulent avoir accès à nous, ils veulent avoir accès à notre expérience de développement, ils veulent avoir accès à nos technologies, ils veulent dialoguer avec nous. L'AFD, c'est un des moyens qui existent, très concret, très précis pour ce dialogue. Et j'espère bien que... Alors c'est, le dernier chapitre s'appelle l'équation chinoise. Donc évidemment, nous n'avons pas la réponse encore. Et je l'ai mis à la toute fin du livre parce que cette réponse, si elle est négative, elle remet en cause peut-être les 8 chapitres qui précèdent. Mais si elle est positive, elle donnera un élan et une redéfinition encore de la politique de développement comme jamais dans le cadre international qui nous a été fixé.
Eh bien, cette émission est terminée. Merci Rémy Rioux d'avoir accepté l'invitation de RFI et de Jeune Afrique. Merci à Mathias Golshani d'avoir réalisé cette émission. Vous pouvez nous podcaster sur l'application Pure Radio de RFI et découvrir un résumé écrit et vidéo de cette émission sur jeuneafrique.com. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.
Écho d'ici, écho d'ailleurs sur RFI.